From Pacifica, this is Democracy Now!
And a very good morning to you. This is the program Global Rhythms.
It's Thursday morning. It's the Bill King Show.
You locked in to bring your A-game.
And welcome to 3345-78.
CIUT 89.5 FM is your nonprofit alternative on the FM dial. Show your support. Keep us on the air. Donate today at www.ciut.fm or call 416-946-7800 or toll free at 1-888-204-8976.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena la buena.
Adra bella cosa, adra bella cosa. Ding dong, ding dong,
ding. Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Oui, madame, monsieur, bien bleu, bonjour. Ici Eric Kader en direct de la radio de l'Université de Toronto, la radio campus de Toronto. On vous souhaite une émission un peu, on vous présente une émission un peu spéciale aujourd'hui. Un pot-pourri chaud. On est solidaires en ce dimanche 15 novembre. Édition spéciale après l'attentat à Paris le 13 novembre, vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est aussi notre campagne d'adhésion, la voix de votre ville. Aidez-nous à garder l'antenne, appelez-nous tout au long de l'émission et faites votre contribution. C'est grandement apprécié. Le numéro à composer, c'est le 86-946-7800. Ou encore, si vous êtes à l'extérieur de notre zone de diffusion, c'est le 1-888-204-8976. Je répète, 86-946-7800 ou encore le 1-888-204-8976. Alors, il y a plusieurs prix à gagner, bien sûr, mais l'important, c'est de garder la seule émission en langue française depuis 28 ans à l'antenne. Grâce au département d'études françaises de l'Université de Toronto et tous les professeurs de ce département, les élèves, les étudiants, on vous remercie et nous avons besoin de vous plus que jamais. Et la France est en deuil. Cette émission donne la voix aux sans-voix dans le respect et en mémoire des victimes de l'attentat à Paris. Témoignages, analyses et réactions avec nos invités. Et aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Trouet, consul général de France à Toronto, professeur Pascal Michelucci, directeur du département d'études françaises à l'Université de Toronto, Anne Forrest Wilson, fondatrice de l'écriture en mouvement et du projet Les 24 heures du roman, qui vient d'avoir un grand succès à Toronto dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de présence française en Ontario. Marcel Lynn, fondatrice et directrice de Ciné Franco et grande amie de la radio, passionnée de la langue française, de toutes les cultures. Michèle Aubin, elle est écrivaine et elle est en France en ce moment, à Paris. Et d'ailleurs, cet attentat qui s'est passé dans plusieurs zones à Paris n'était pas très très loin de chez elle. Et elle faisait partie, si vous vous souvenez, de l'opération des 24 heures du roman avec Anne Forrest Wilson. Elle nous attend en direct de Paris. Serge Beyer, qui est fondateur de la revue Longueur d'onde, et ses collaborateurs étaient justement au Bataclan le soir même de l'attentat. Il va nous livrer un témoignage en direct de France. Professeur Victorio Frigero, directeur du département d'études françaises à l'université Dalhousie, l'université de Halifax, qui sera peut-être des nôtres avant la fin de cette émission. Pour nous joindre ou encore pour émettre vos commentaires, vos témoignages, tout au long de l'émission, vous pouvez nous appeler au 86 946 7000 ou encore le 86 946 7800 ou encore hashtag #potpourrichou en un seul mot ou par courriel pot.pourri@sympatico.ca. L'ingénieur du son aujourd'hui est DJ Devera au microphone, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm.
Bonjour à tous, il est près de 11h, la France en état de choc après une série d'attentats sans précédent hier soir à Paris. Les attentats les plus meurtriers de notre histoire. Le bilan encore provisoire est épouvantable, au moins 128 morts et 200 blessés, dont une centaine dans un état grave. Avec nos experts et nos invités sur ce plateau, avec nos journalistes en direct sur tous les points sensibles, nous allons consacrer une édition spéciale de 2 heures à ces événements terribles. Ces attaques se sont produites en plusieurs points de la capitale hier soir, dans la salle de spectacle du Bataclan, où des dizaines de spectateurs ont trouvé la mort, dans plusieurs rues du 10e et du 11e arrondissement, où les assaillants ont frappé avec leurs mitraillettes plusieurs terrasses de café et des restaurants, et puis aux alentours du Stade de France pendant le match France-Allemagne, où 2 kamikazes se sont fait exploser, faisant là aussi plusieurs victimes. Le président François Hollande, qui se trouvait sur place, a quitté les lieux. Il a déclaré l'état d'urgence sur tout le territoire français. Retour d'abord sur ces dernières heures avec Marie-Pierre Courtelmont.
La mi-temps du match de football France-Allemagne n'est pas encore sifflée. 3 explosions. 3 explosions autour du Stade de France. Un homme à terre. Il est seulement blessé, comme il l'indique, de plusieurs signes de la main. 2 kamikazes se sont fait sauter. L'un devant une enseigne de restauration rapide. L'autre devant un magasin d'équipements sportifs. Au moins l'un d'entre eux portait une ceinture explosive. Il est 21h15. Paris s'installe dans une nuit de terreur. Elle se poursuit dans le centre de la capitale.
Ça tire, recule, gros, ça tire.
Dans le quartier très animé de Bastille République, une fusillade à une terrasse de restaurant asiatique, rue Alibert, 14 morts. Une pizzeria dans le 11e arrondissement, 5 morts. Plus loin, des témoins entendent des tirs nourris pendant plusieurs minutes. Il y aura rue de Charonne, 18 morts.
Nous étions à table et en fait, on a entendu comme des pétards au départ. On pensait que c'était des pétards et en fait, c'était plus du tout un bruit de pétard. C'était très répétitif.
Je suppose que c'était des kalachnikovs, parce que c'était des tirs à répétition. Les vitrines explosaient et à ce moment-là, un énorme mouvement de panique, des gens qui tombent à terre. Et on trouve le temps extrêmement long entre le moment où ça se passe et les moments où les secours arrivent.
Mais l'équipe sauvage des terroristes n'est pas terminée. Les policiers perdent leurs traces macabres. Ils la retrouvent dans une salle de spectacle, célèbre à Paris pour ses concerts de rock et son affluence. C'est le Bataclan. Ce soir-là, on joue à guichet fermé. Hier, près de 1500 personnes.
Les forces de l'ordre de sécurité en France sont en alerte maximale. Après les attentats, les Français vont vivre désormais au rythme de l'état d'urgence. Journée de deuil et de recueillement en ce dimanche à travers toute la France après les attaques terroristes et barbares survenues vendredi soir à Paris. Ces attentats les plus meurtriers de l'histoire de France, revendiqués par Daesh, ont fait au moins 129 morts, 352 autres personnes qui sont blessées, dont au moins 99 sont dans un état d'urgence absolu. La journée de dimanche, donc, s'annonce sous le signe du recueillement, avec le début d'un deuil national de 3 jours décrété par le président français François Hollande. Les cathédrales, comme Notre-Dame, sonneront le glas. Musées, salles de spectacle et établissements culturels publics resteront fermés en Île-de-France. Les écoles rouvriront lundi alors qu'une minute de silence sera observée à midi partout en France. Émission spéciale, Potpourri Chaud, on est solidaires, en ce dimanche 15 novembre 2015. Plus près de chez nous, il y a eu plusieurs marches de solidarité, entre autres hier à Queen's Park, mais aussi à Montréal, un peu partout, à travers le pays, à Ottawa. On vous donnera des détails de toutes ces manifestations à travers le monde d'ici à la fin de cette émission. Et hier, le maire de Toronto, Monsieur John Tory, avait invité plusieurs personnalités, que ce soit au niveau fédéral, provincial et municipal. Ils ont répondu en grand nombre, présents, mais aussi il y avait des gens qui sont sympathiques aux Français, mais aussi qui suivent depuis surtout Charlie Hebdo et l'attentat au mois de janvier. Vous vous souvenez, c'est un peu du déjà vu, c'est le même scénario. Et donc le consul général de France, Monsieur Marc Trouet, était aussi au rendez-vous et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a rendu hommage aux victimes de l'attentat de Paris et en a profité pour remercier tous ceux, toutes celles qui étaient présents. Et nous avons le bonheur, le plaisir d'accueillir Monsieur Marc Trouet avec nous ce matin. Bonjour Monsieur le consul.
Bonjour Eric.
Alors tout d'abord, nos condoléances. Je pense que il y a tellement de... Je ne sais pas comment décrire ce qu'on a vécu, même si on n'était pas sur place à Paris, mais quand j'ai appelé des gens, des amis, des professeurs de l'université hier soir pour monter cette émission, et certains m'ont carrément dit « je ne peux pas parler parce que je suis choqué ». Et les gens sont aussi, pas seulement émus, mais on sent qu'il y a une violence actuellement dans la tête de beaucoup de gens. Comment ça se passe chez vous, votre personnel, votre famille ?
Alors je pense que tout le monde évidemment a été choqué par l'horreur des attentats terroristes qui ont été commis à Paris. Je crois aussi que, comme vous l'avez dit, les personnes, que ce soit en France ou ici, les Français sans doute, sont à la fois choqués et en même temps déterminés à combattre cette horreur. Donc je ne crois pas que ce soit de la violence, je crois que c'est de la détermination, de la fermeté à tenir debout et à effectivement répliquer et à combattre ces terroristes pour que cela cesse.
C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de voir que le monde entier est solidaire avec Paris, avec la France. Et il y a un élan de solidarité. Et je pense que c'est très profond hein, quand on voit des gens envoyer des messages. On voit tous ces monuments à travers le monde qui ont décoré leurs immeubles avec des lumières bleu, blanc, rouge. On voit qu'il y a vraiment de l'émotion, mais aussi beaucoup d'amour pour la France.
Je crois que oui, effectivement, ça nous fait chaud au cœur, ça nous conforte, effectivement, dans notre, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans nos trois journées de deuil national, que de voir les amis de la France se rendre solidaires avec les drapeaux français aux couleurs dans beaucoup de lieux symboliques et emblématiques de la planète. Ici, à Toronto, vous l'avez vu aussi, la CN Tower était aux couleurs bleu, blanc, rouge avant-hier, hier soir encore. C'est vrai que ça, ça nous conforte, ça nous appuie dans notre douleur, mais aussi dans notre détermination. Parce que au-delà de la France, ce qui est visé, c'est l'Europe, c'est les démocraties, c'est l'ensemble des valeurs pour lesquelles nous sommes vivants, pour lesquelles nous battons, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la République. Donc je crois aussi peut-être que au-delà du sentiment de solidarité spontanée vis-à-vis de l'humanité, des personnes qui ont été assassinées lâchement, je crois que ce mouvement aussi, il veut dire autre chose. Il veut dire que l'ensemble des personnes qui manifestent cette solidarité sont conscients que nous sommes face là à une barbarie qui n'a pas de frontières, une barbarie qui a frappé la France, mais qui en fait menace l'ensemble du monde. Mmh.
au niveau de la sécurité pour les ressortissants français à travers le monde, est-ce que vous avez reçu des consignes de la France pour justement s'assurer que les gens, les Français surtout, les consulats soient en sécurité?
Alors naturellement, face à un événement d'une telle ampleur, à une menace diffuse puisqu'il s'agit de l'acte d'attentat terroriste, il était nécessaire d'avoir, de redoubler encore nos consignes de sécurité. Donc évidemment, nous étions déjà avec des consignes de sécurité importantes. Nous les redoublons partout dans le monde, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une menace globale, c'est une menace mondiale. Et nous le faisons dans un pays comme le Canada, en pleine concertation avec les forces de police et de sécurité, puisque c'est avec elles que nous travaillons à l'identification des menaces et à la mise en place de dispositifs adéquats. Je voudrais dire aussi que cet renforcement des mesures des dispositions de sécurité concerne la France et l'ensemble des ses représentations partout dans le monde, mais concerne aussi l'ensemble des pays, l'ensemble des démocraties, l'ensemble des pays membres de la coalition qui lutte contre Daesh. Plusieurs pays en Europe ont réuni des conseils de sécurité et de défense. Je pense à l'Allemagne, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Italie notamment, qui savent bien aussi que cette menace-là les concerne également. Et donc je crois que partout dans le monde, par toutes les démocraties, par tous les pays sont conscients de cela et renforcent eux aussi leurs dispositifs de surveillance et de sécurité.
Alors on sait que les grands de ce monde sont réunis à Antalya en Turquie pour un sommet du G20 et je pense qu'ils s'apprêtent à effectuer une déclaration commune de soutien à la France condamnant les attentats commis vendredi à Paris. On sent qu'il y avait quand même des menaces qui étaient prises de très très au sérieux en France et dans d'autres pays, en Allemagne entre autres, et d'autres pays européens. Ce qui choque, je pense, beaucoup de gens et mes confrères dans les médias, c'est comment ils ont pu déjouer finalement tous les services de renseignement et de l'ordre de sécurité à travers le monde. C'est quand même et aussi attaquer le cœur même de la liberté, c'est-à-dire une salle de concert, un match de foot. Il y a tout un symbole dans ces attaques cette fois-ci, n'est-ce pas?
Alors, il ne m'appartient pas de commenter les intentions des terroristes, mais clairement, ce qu'ils ont visé là, c'est notre mode de vie. C'est le mode de vie, vous l'avez dit, de passants qui sont tranquillement attablés à des terrasses et qui profitent de la vie, qui ont un dîner entre amis, qui boivent un verre entre amis. C'est des jeunes qui vont écouter de la musique et qui s'amusent. C'est effectivement des jeunes et des moins jeunes qui vont voir un match de foot et qui profitent de la vie. Donc c'est clairement, effectivement, le mode de vie, on va dire, pas forcément occidental, mais le mode de vie de gens libres, de peuples libres, qui vaquent à leurs occupations et qui jouissent de la vie sans entrave et avec plaisir et dans un cadre démocratique. Donc c'est effectivement ça qui a été visé, c'est-à-dire quelque chose qui est universel. C'est en cela que ces attaques sont une menace sur l'ensemble des peuples civilisés et des démocraties de la planète.
Je vous rappelle, madame, monsieur, que vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui, édition spéciale « On est solidaires » après les attentats à Paris le 13 novembre dernier. Et j'ai en ma compagnie le consul général de France, monsieur Marc Trouet, qui est à Toronto depuis 3 mois, 4 mois maintenant.
3 mois oui. Maintenant, effectivement.
Voilà. Alors, plusieurs journaux, plusieurs collègues et confrères, surtout en France, qui posent la question à leurs lecteurs, leurs auditeurs. Après les attentats de Paris, avez-vous changé vos habitudes? Monsieur Trouet, est-ce que on doit changer nos habitudes à partir de ce qui s'est passé vendredi, d'après vous?
Je crois que l'on doit, de toute façon, être extrêmement vigilant et déterminé. La vigilance et la détermination, ce sont les mots d'ordre du gouvernement français. Vigilance parce que effectivement, le gouvernement a pris des dispositions pour, à travers l'état d'urgence, conduire un certain nombre d'enquêtes dans la rapidité et l'efficacité que requiert la situation. Détermination à combattre toujours ces terroristes, et c'est ce que fait le gouvernement, y compris sur le théâtre des opérations extérieures. Et en même temps, donc, ça suppose que l'ensemble des citoyens soient vigilants, eux aussi, déterminés, mais en même temps continuent de vivre selon le mode de vie qui est le nôtre, ce mode de vie démocratique, ce mode de vie de société libre. Donc c'est important en même temps que nous continuions d'être nous-mêmes, mais déterminés à vivre dans cette liberté et dans cet espace démocratique et à le défendre.
Et pour terminer, un message d'espoir, de compassion, d'encouragement à vos compatriotes, mais aussi les auditeurs qui nous écoutent à Toronto, mais aussi sur Internet, parce que nous sommes à travers le monde, hein, sur le web.
Alors, mon message, il est la France est debout. La France va évidemment réagir, se mobilise pour faire face à cette horreur et combattre les terroristes. Notre mode de vie démocratique est libre, demeure et sera évidemment défendu. Notre pensée va aux victimes et à leurs familles de ces horreurs. Toute notre compassion les accompagne et les marques de solidarité et de compassion que nous avons vues à travers la planète et auxquelles j'ai assisté, vous le rappeliez en début d'émission, hier à Toronto, et je vais aujourd'hui aller dans d'autres villes de l'Ontario. Cette manifestation de solidarité de l'ensemble des, non seulement des Français ici, mais également des Canadiens, des résidents canadiens, est effectivement une marque très forte que nous saluons.
Toute l'équipe est extrêmement bouleversée par cette terrible tragédie. Nous sommes solidaires avec vous, avec la France, et nous sommes tous paris, hein? Et nous exprimons toute notre compassion et notre soutien à l'égard des familles, des victimes dont nous partageons la douleur.
Merci Eric d'être présent. Là aussi, c'est important pour nous d'avoir nos amis, ceux qui partagent nos valeurs, qui soient à côté de nous dans cette épreuve.
On se reparle très prochainement et bon courage.
Merci.
Au revoir.
Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter. Qui cligne de l'œil aux fenêtres sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau ou ses mains nues. La vie, la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu. Mais on pourra se présenter là-haut une fleur au chapeau.
CIUT 89.5 FM is the sound of your city. Support community radio. Donate today by calling 416-946-7800 or toll free at 1-888-204-8976.
Mark your calendars to join us at the Transac on December 4th for a party to celebrate the completion of another great year and another successful membership drive. $10 at the door, but all members will receive free entry. Special performances to be announced. Stay tuned for more details. CIUT 89.5 FM Holiday Party. December 4th at the Transact Club. Don't miss it.
Did you know there are now 8 different ways in which you can listen to your favorite programs on CIUT? From Barrie to Buffalo, Kitchener to Coburg, you can pick us up on 89.5 FM. We also stream online at www.ciut.fm, on Rogers Digital Cable, Channel 946, Channel 970 on Bell 5 TV. Star Choice Satellite offers CIUT on Channel 826, and you can pick us up on the TuneIn Radio app and under College and Campus Radio on iTunes. Finally, you can listen or download CIUT program archives at CIUT.fm. CIUT 89.5 FM, delivering the new sound of your city everywhere.
Vous écoutez Pot Pourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Mesdames, Messieurs, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui, Pot Pourri Show, on est solidaires, en ce dimanche 15 novembre, édition spéciale après les attentats à Paris le 13 novembre dernier. Mais aujourd'hui, c'est aussi notre campagne d'adhésion, la voix de votre ville. Aidez-nous à garder l'antenne, appelez-nous tout au long de l'émission, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de votre contribution. Il y a quelqu'un qui parle français, qui attend votre appel, c'est le 86 946 7800. 416-946-7800 ou encore le 1-888-204-8976. Gardons cette voix de liberté, gardons la francophonie vivante, gardons notre présence en onde, en toute liberté. Et oui, aujourd'hui nous avons plusieurs invités qui sont ici à Toronto, mais aussi à Halifax, à Montréal ou encore à Paris, qui seront des nôtres tout au long de cette émission. Et vous aussi, vous avez droit à la parole, vos témoignages, analyses, décryptages, tout au long de l'émission au 86 946 7000.
Sound of your city, CIUT 89.5 FM. Please donate now at 416-946-7800.
D'année en plein Paris et dans des lieux fréquentés, à une heure où beaucoup de gens se trouvent dans les rues. Le Stade de France pendant un match de football, une salle de concert bondée, des restaurants, des terrasses. 21h20 hier soir, Stade de France, un bruit assourdissant. Puis deux autres, des explosions à bord du stade. Personne ne sait encore qu'au même moment ou presque, d'autres terroristes vont passer à l'action. Ils ont choisi un quartier populaire très fréquenté en début de soirée. Un restaurant cambodgien à la terrasse bondée. Plusieurs hommes viennent de tirer à l'arme lourde, tuant 14 personnes. Est-ce le même commando qui prend pour cible des passants rue de Charonne? Depuis ce taxi, on entend le bruit des rafales.
Ça tire, recule.
Elles vont durer 3 minutes.
Recule.
18 morts. Recule. Un témoin a pu apercevoir les assaillants.
Ouais, une voiture noire de style Renault Clio 4, noire, vitre teintée, donc 4 places, et 3 hommes donc qui sont sortis de la voiture cagoulés, habillés en noir, et ils avaient pas apparemment des petits pistolets, parce que c'était des grandes armes style comme on pourrait voir les Kalachnikov.
D'accord.
Et ça tirait vraiment très très fort pendant 10 grosses minutes, quoi.
Et les secours sont déjà appelés ailleurs. Le Bataclan, une salle de spectacle, vient d'être attaqué par 4 hommes. Des tirs de Kalachnikov sur la foule en plein concert. Il y avait 1500 personnes dans la salle. Une centaine de morts. Depuis l'Élysée, François Hollande déclare l'état d'urgence.
Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur.
Au Bataclan.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto. Aujourd'hui, édition spéciale, on est solidaires. Des nombreux médias à travers le monde ont réagi et certains violemment face à ces actes barbares à Paris vendredi soir. Une certaine rédaction d'un de nos médias partenaires écrit « C'était une guerre, une vraie guerre. Nous le savions, mais au fond, nous préférions ne pas le voir. » Grisé par le spectacle de sa propre émotion, la France de l'après-Charlie avait décidé d'ensevelir sous les fleurs d'une rhétorique trompeuse le souvenir douloureux des événements terribles du mois de janvier dernier. Au fil des semaines, l'horreur avait fini par prendre un caractère quasi symbolique et presque irréel. Il fallait, pour le confort intellectuel de tous, que la parenthèse fut promptement refermée. Des alertes nombreuses auraient pourtant dû nous persuader de la persistance du mal. Mais ces projets criminels déjoués par la police à Villejuif, à Toulon et ailleurs nous ont installés dans l'illusion d'une fausse sécurité. Quant à ce policier magistrat intellectuel qui s'évertuait à clamer le contraire, le cœur des vierges du vivre ensemble a eu vite fait de les disqualifier. Oiseau de malheur, islamophobe, l'essentiel, n'est-ce pas, était de ne pas stigmatiser. Cette guerre, maintenant chacun l'a compris, ne fait que commencer. Sécurité, justice, diplomatie, contrôle de l'immigration, c'est tout cela qu'il faut revoir si nous voulons répondre à la menace. Sans nous embarrasser davantage, avec des éléments, arguments juridiques, les démocraties sont attaquées. Elles ont le droit et le devoir de se défendre contre la brutalité. Il n'est qu'un principe. La force. Contre la sauvagerie, qu'une loi, l'efficacité. On se souvient de Clémenceau. En politique intérieure, je fais la guerre. En politique extérieure, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Pour gagner la guerre, il faut la mener. Est-ce que la démocratie est vraiment attaquée? Et nous avons le plaisir, Madame, Monsieur, d'accueillir professeur Pascal Michelucci, qui est directeur du département d'études françaises à l'Université de Toronto. Bonjour, professeur.
Bonjour, Eric.
Alors, quand je préparais cette émission hier soir et ce matin, je me suis dit, c'est du déjà vu. Parce
oui,
que vous étiez là quand il y a eu Charlie Hebdo.
Oui, oui, tout à
et
fait.
Et on était en direct avec le consul à Paris. Il y avait des intervenants un peu partout. Et 9 mois après, on revit la même chose. Où étiez-vous vendredi soir quand vous avez appris la nouvelle?
J'étais en train de rentrer du travail vers les 6 heures dans le tramway et puis j'ai lu une alerte que le journal Le Monde m'envoie sur mon téléphone et je me suis attendu tout de suite au pire. Je pensais que ça allait être quelque chose de grande ampleur et puis petit à petit, heure après heure, on a découvert la situation se dégrader. C'était vraiment, vraiment très, très impressionnant, très, très atterrant aussi, parce que on savait qu'il y aurait quelque chose depuis Charlie Hebdo. C'était bien évident que Charlie Hebdo n'était pas le dernier événement de ce type.
Comment se fait-il que personne n'a pu voir venir ça de très près en France, parce que quand même, les forces sécuritaires étaient sous les pieds d'alerte depuis très longtemps, n'est-ce pas? D'ailleurs, elles ont déjoué pas mal d'attentats depuis quelques mois.
Le pays était toujours sous le plan Vigipirate depuis le mois de janvier. Ça n'avait pas été désescaladé depuis, mais des groupes organisés comme ça peuvent se concerter et faire un maximum de dommages avec un minimum de moyens au prix de donner leur vie dans la mission. C'est assez terrible de voir des fanatiques de ce type, mais je suppose que ça doit être impossible à stopper des gens déterminés à ce point qui sont prêts à donner leur vie pour une idée néfaste et nauséabonde.
En venant à l'émission ce matin, j'entendais un de mes confrères à CNN qui disait « What does ISIS want ?» Que veut Daesh ?
Ben, je ne sais pas, il faudrait peut-être demander aux politologues, mais il faut regarder quand même à l'échelle mondiale. Cet État islamique, Daesh, a vraiment une ampleur et commence à avoir des impacts sur à peu près tous les pays. Vous avez probablement connu en même temps, vendredi aussi, l'attentat qui a eu au Liban, qui est un attentat aussi à échelle massive. Ça fait une trentaine d'années que le Liban n'avait pas souffert à ce point, et pourtant on sait combien le Liban a subi et connu la guerre. Et là, il y a une cinquantaine de morts, des centaines de blessés, aussi dans un lieu public. Donc c'est le même mode d'opération, c'est vraiment faire passer le message politique à travers la souffrance des populations, des habitants dans leur vie la plus quotidienne. C'est la même méthode, et c'est à l'échelle planétaire maintenant.
Je vous rappelle, madame, monsieur, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui, édition spéciale après les attentats à Paris le 13 novembre dernier. On est solidaires. Et professeur, vous êtes en contact avec beaucoup d'étudiants, et il y en a qui sont des étudiants étrangers aussi, qui utilisent...
Oui, nous avons des étudiants étrangers et nous avons des étudiants canadiens qui sont en train d'étudier en France. Il y en a une seule dont on n'a pas pu avoir de nouvelles, mais pour les autres, ils sont sains et saufs. Et ils me disaient dans leur message combien ils se sentaient être au milieu de toutes ces choses qui se passent dans leur réseau d'amis, dans leur vie quotidienne, dans les cafés dès qu'ils sortent. La conversation, l'ambiance tourne tout autour de ça. Donc c'est aussi un choc pour ceux qui sont simplement observateurs et qui sont pas vraiment encore touchés. Alors j'imagine ceux qui sont touchés à Paris, donc qui vivent dans les quartiers où il y a eu les attentats, ça doit être vraiment un traumatisme.
Ici, au Canada, il y a eu quelques débats, surtout lors de certaines élections, pour ne pas les nommer, les récentes élections. Sur justement l'intégration des migrants ou encore le multiculturalisme, les signes religieux. Jusqu'à quel point doit-on aller pour accepter l'autre? Je parlais tout à l'heure avec une amie française avant d'entrer en onde, et on voit que les gens sont ont des esprits, enfin des opinions très diverses. Il n'y a pas de front commun vraiment, parce que là on a vu aussi, d'après certaines informations, qu'il y a quelqu'un, un terroriste, qui a passé à travers le fil des migrants entre la Grèce et la France. La sécurité nationale ou internationale, ça pose problème. Est-ce qu'il faut ouvrir toutes les portes? Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre à cette question, mais les jeunes que vous côtoyez à l'Université de Toronto, c'est quand même un groupe très multiculturel, très diversifié, venant de quatre coins de la planète, n'est-ce pas, qui fréquentent l'Université de Toronto. Est-ce que ces jeunes sont préoccupés par ces questions d'immigration, de la paix sociale, l'ordre établi national et tous les enjeux, justement, avec Daesh qui est en train de commettre des attentats? Est-ce que ces jeunes sont complètement coupés de la réalité, de ce monde qui se passe? Est-ce que ça prend justement des moments de choc pour qu'ils se parlent entre eux, ou d'après vous, il y a toujours cette inquiétude qui existe, mais qui n'est pas toujours palpable chez les jeunes?
Pour ma part, je place beaucoup d'espoir en la jeune génération. J'enseigne à l'Université de Toronto et c'est un milieu urbain, c'est un milieu aussi peut-être privilégié socialement, socio-économiquement. Mais j'ai beaucoup d'espoir parce que la jeune génération a beaucoup d'ouverture à l'autre. Dans leur expérience, ils côtoient toutes sortes d'amis, les groupes se font et se défont dans toutes sortes de configurations. Le débat est toujours éclairé quand on parle de ces choses. Ce sont des gens qui réfléchissent, ils sont mesurés, ils sont humanistes au fond d'eux-mêmes. Et donc, je trouve que ce qui est peut-être dommage, c'est qu'on entende peu ces voix de jeunes dans le débat public. Quand on allume la télévision ou la radio ou les médias, c'est souvent une génération beaucoup plus établie à qui on donne la parole. Et le débat public n'a pas été très ouvert à organiser la parole, les groupes de discussion de la jeunesse, qui à mon avis a une vue beaucoup plus libérale, pas dans le sens canadien évidemment, mais beaucoup plus ouverte, beaucoup plus altruiste que la génération plus élevée. Donc je pense qu'il y a une question de génération ici aussi. Ça se voit beaucoup, beaucoup aussi aux États-Unis. On sait très bien comment la politique américaine est polarisée entre deux groupes d'âge, plus ou moins.
Oui.
De ce côté-là aussi, je dois dire que les musulmans ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexions sur eux-mêmes. On a aussi bien au niveau des communautés religieuses que de la manifestation ou l'expression politique de la présence des musulmans, autant en France qu'au Canada. Il y a vraiment une volonté de s'ouvrir et de se montrer et de défendre des positions qui sont humanistes, qui sont plus axées vers la pensée occidentale ou la pensée des Lumières. Tout récemment, par exemple, en Tunisie, le nouveau président de Tunisie a fait quand même inscrire à la constitution tunisienne la liberté de conscience. C'est quand même pour un pays de tradition musulmane et islamique, c'est quand même un geste magnifique, je trouve.
Il ne faut pas oublier que la Tunisie justement.
On devrait intégrer les jeunes dans le débat.
Et justement, vous parlez de la Tunisie, c'est bien. La Tunisie a été aussi affectée il y a quelques mois de cela par un attentat dans un lieu touristique. Et donc, on sent qu'il y a quand même de la colère sur certains de voir que ça s'étale pas seulement dans les pays occidentaux, chez nous ou en France, mais même la Tunisie ou en Libye ou en Irak. Ces gens veulent vraiment accaparer finalement les territoires. Je reçois une question de notre Twitter qui nous dit: comment admettre que les jeunes Français partis apprendre le djihad en Syrie ou en Irak ne fassent l'objet tout au plus que d'une surveillance policière lorsqu'ils reviennent chez nous? C'est une auditrice internaute qui nous écrit de Paris. Alors, ça, c'est un vrai casse-tête, je pense, pour la force policière, que ce soit en Europe ou ici. Comment suivre, justement, ces jeunes qui sont embrigadés aujourd'hui par Internet dans toutes sortes de groupes radicaux, même aux États-Unis, et pas seulement des jeunes hommes, il y a des jeunes filles aussi, nous dit-on, qui sont embrigadées. C'est compliqué.
Effectivement, c'est... Prendre le problème en aval seulement, je pense que c'est pas la bonne méthode. Je crois qu'il faut en amont, sur les territoires, aussi bien au Canada qu'en France, que dans les cités, que la vie des jeunes puisse avoir un espoir, puisse avoir une manière de se réaliser dans autre chose que des discours de haine. Que ces jeunes qui ont une expérience bien souvent très très limitée du point de vue de l'éducation puissent avoir quand même des perspectives de vie dans le milieu où ils se voient vieillir avec leur famille autour d'eux, dont ils sont bien souvent déjà coupés. C'est quand même assez naïf de penser qu'on peut simplement attendre que les gens reviennent de Syrie ou d'ailleurs, et puis de pouvoir les récupérer et les changer a posteriori. Il faut leur inculquer les valeurs et l'expérience de la valeur de la vie et des valeurs de liberté, d'égalité dans leur milieu de vie aujourd'hui, pas dans 20 ans.
Oui, très bien dit. Alors, professeur Pascal Michelucci, qui est directeur de l'université du département d'études françaises à l'université de Toronto, il y a quelques-uns de vos confrères qui n'ont pas le courage aujourd'hui de passer en direct parce qu'ils sont encore sous l'effet du choc et on les respecte.
C'est un grand choc, oui.
Oui. Alors, nous exprimons toute notre compassion et notre soutien à l'égard des familles, des victimes.
Et oui.
Donc
nous
partageons la douleur, voilà. Et je vous souhaite de passer, malgré tout, une bonne journée. Et je vous remercie sincèrement de la part de toute l'équipe de répondre toujours présent quand on fait appel à vous.
Merci Eric. Merci d'avoir monté cette émission vraiment à la dernière minute. C'est très très bien de ta part.
Au revoir.
Au revoir.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, and only Matthew in the sky. Imagine all the people for today. Oh, imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. How you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday that you'll join us, and the world will live as one. People of the nation, are you listening? It isn't equal if it's sometimes. I want a real democracy. Imagine all the people could love equally. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Oh yeah. Just a brotherhood of man. Imagine no.
Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre des attentats à Paris le 13 novembre, vendredi dernier. Popourri chaud. Aujourd'hui, on est solidaires. Je vous rappelle que tout au long de cette émission, vous êtes invités à collaborer, contribuer et appuyer la seule et unique émission en langue française à l'Université de Toronto. C'est le 416-946-7800. C'est le 416-946-7800. Ou encore le 1-888-204-8976. La France est en deuil. Cette émission donne la voix aux sans-voix dans le respect et en mémoire des victimes de l'attentat à Paris. Témoignages, analyses, réactions avec plusieurs invités d'ici 13 heures. Pour participer en direct à cette émission spéciale, vous pouvez composer le 416-946-7000 ou encore hashtag Popourri Chaud. Des dizaines d'actes de solidarité partout dans le monde, des pots de fleurs, minutes de silence où Marseillaise a chanté en public à bâtiments illuminés en bleu, blanc, rouge. Les témoignages de solidarité de personnalités comme Danonyme se sont multipliés dans le monde entier après les attentats à Paris. Sur l'une des principales places de Florence en Italie, l'immense reproduction du David et Michel-Ange portaient un bandeau noir au bras, un drapeau français à ses pieds. À Trafalgar Square, en Angleterre, en plein cœur de la capitale britannique, quelques milliers de personnes, surtout des Français, se sont rassemblées dans la soirée brandissant des pancartes « Paris, je t'aime » ou « Pray for peace ». Et des drapeaux français étaient bien sûr partout à Londres. La foule a entonné à plusieurs reprises la Marseillaise, mais aussi le tube de Joe Dassin, les Champs-Élysées, et scandé « Liberté, égalité, fraternité ». Les gens se tenaient la main et allumaient des bougies ou leur téléphone. À la mi-journée, déjà une centaine de personnes s'étaient réunies sur la place malgré une pluie battante, en hommage aux victimes des attaques. Ces fontaines étaient illuminées de bleu, blanc et rouge et le drapeau français était projeté sur la façade de la National Gallery, prestigieux musée. Le Tower Bridge s'est paré de lumières tricolores et en un feu d'artifice a été annulé. Ici à Toronto, Montréal, Ottawa et un peu partout dans d'autres villes canadiennes, il y a eu aussi des manifestations, des marches de solidarité. Et oui, mesdames, messieurs, ça me fait plaisir d'accueillir celle qui n'était pas très longtemps à l'émission d'ailleurs. C'est Anne Forrest Wilson qui est fondatrice de l'écriture en mouvement et du projet Les 24 heures du roman. Bonjour Anne.
Bonjour Eric.
Où étiez-vous vendredi soir?
Eh bien, j'étais en train de terminer de travailler et je me disais que enfin le week-end était arrivé, que j'allais pouvoir me relaxer. Et puis ça s'est pas fait.
Ouais. Et vous l'avez appris comment?
D'abord par des messages SMS, en fait, par le téléphone. J'ai eu des messages, un message puis un autre. Donc immédiatement j'ai fait des recherches, j'ai voulu tout savoir et j'ai commencé à faire le tour des amis et de la famille en France.
Oui, vous avez beaucoup d'amis et de connaissances hein, de la ville parisienne.
Et puis, y compris un de nos auteurs des 24 heures, Bertrand Laverdure, qui, donc, j'ai eu sur Facebook, en fait, je dois dire que moi qui ne suis pas une fan de Facebook, j'ai trouvé cette méthode extrêmement efficace d'avoir des nouvelles rapidement et d'être rassuré très vite, parce que je fais partie des gens qui ont la chance de n'avoir perdu personne de connu. Donc, je me sens très privilégiée, ce qui n'était pas le cas au moment de Charlie Hebdo. Et donc, voilà, il y avait quand même une grosse appréhension. Et puis, très, très rapidement, on pouvait savoir que les uns et les autres étaient sains et saufs. Donc,
le président français François Hollande, dans son intervention de samedi, s'est enfin décidé à nommer le mal. Sans financer, il parle, c'est nouveau, de guerre de Daesh. et de djihad. Est-ce que la France est vraiment en guerre?
Comme je ne suis pas sur place, c'est difficile à dire. Moi, j'ai tendance à penser que peut-être qu'il ne faut pas se penser en guerre, mais il faut quand même réfléchir à ce qui s'est passé. Il faut réfléchir comment on en est arrivé là. Il faut surtout essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, parce que des erreurs ont dû être commises pour que ce qui était l'exception devienne de plus en plus massif. Même pour moi, ces actes terroristes restent l'exception. La démocratie n'est pas morte. La démocratie est ébranlée émotionnellement, je dirais. Je pense que il faut être très clair là-dessus. La démocratie est vivante, bien vivante, et personne ne va la faire tomber. Il faut qu'on soit tous bien conscients de ça. C'est pas quelques extrémistes, et même s'ils deviennent de plus en plus nombreux, il faut se poser les bonnes questions, qui sont pas faciles à serrer, évidemment. Mais moi, pas un seul instant, ça me met très en colère d'imaginer qu'on puisse ébranler la démocratie. Non. Moi, je me lève et je dis non. On laissera pas faire, c'est évident. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau global, mondial. La France a été durement touchée, d'autres pays ont été touchés, d'autres pays vont être touchés. Ça, il faut en être, à mon avis, faut pas s'endormir. Mais bon, la France sera peut-être touchée à nouveau. Rien ne permet de dire qu'elle ne le sera pas. Donc, essayons d'être responsables et de réfléchir à ce que individuellement on peut faire pour accompagner la démocratie qui est blessée, mais pas tombée, je sais pas comment exprimer, mais moi j'ai la nausée quelque part parce que bon, évidemment, c'est ma ville qui a été attaquée et ma ville, mon pays. Je me sens très attaquée, mais je ne veux pas imaginer une minute que ces attaques sont tout ce qui nous reste.
Vous savez, il y a eu beaucoup de messages à travers le monde qui ont été envoyés au président français, au peuple français, y compris Barack Obama. Et le lendemain, le pape François a dit quand même quelque chose qui a vraiment fait penser, réfléchir plusieurs médias, y compris CNN, en disant que c'est sûr, il présente ses condoléances et il trouve ça effroyable, cette brutalité, cette barbarie qu'il condamne. Mais il a dit quelque chose qui n'est pas passé inaperçu chez moi. Il a parlé de peut-être troisième guerre mondiale. Je me suis dit, peut-être il est au courant du secret de Fatima ou d'un autre, je ne sais pas. Alors, j'ai trouvé ça quand même un peu fort qu'il admettent à son niveau, qu'ils disent au monde entier que, attention, on est déjà dans la troisième guerre mondiale.
Alors moi, je dirais qu'on n'y est peut-être pas encore, mais que c'est pas loin. Donc, c'est là où il faut commencer à faire attention sérieusement. Mmh. Moi, je veux pas imaginer qu'on est pendant la troisième guerre mondiale. Je me sens pas, c'est pas parce qu'on a été extrêmement affecté et abasourdi, anéanti, que il faut imaginer, pour moi, se dire qu'on est dans la troisième guerre mondiale, c'est un peu un constat d'échec. Je pense, j'ose espérer, qu'on est capable de ne pas en arriver là avant pas d'éradiquer, parce que ça va être, ça me paraît une tâche quasi impossible. Mais moi, un peu comme Pascal Michelucci, je pense que on est dans l'éducation. Moi, je suis à cheval entre l'éducation et la culture, une fois dans l'un, une fois dans l'autre, et généralement en même temps. Je pense qu'on a mission d'éduquer, de faire penser. Je pense aussi que ces terroristes et tous les gens qui les écoutent et qui ont un petit peu, on leur a un petit peu enlevé dans le cerveau la case altérité. Et je pense que il faut apprendre, il faut continuer à apprendre aux jeunes, il faut continuer à apprendre aux moins jeunes la valeur de l'altérité. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur nos valeurs démocratiques, il faut qu'on essaye de voir partout où bas blesse, et peut-être imaginer que chacun à sa mesure change quelque chose en réfléchissant sur ce problème fondamental de l'altérité, du respect de l'autre. Et personne n'a le droit de nous enlever ce droit fondamental. On est tous des êtres humains et avec le même bagage. Enfin, bon, c'est un peu gros de dire ça, mais pas le même bagage en naissant, parce qu'il y en a qui naissent dans des pays qui sont beaucoup plus troublés que les nôtres et qui n'ont pas accès à la démocratie, justement. Mais il faut peut-être essayer d'accéder au maximum au sentiment d'altérité de tous ces gens qu'on croise quelque part une fois dans sa vie. Et moi, c'est vrai que je pense pas qu'il va m'arriver d'aller en Syrie ou en Iran, donc je peux pas aller là-bas faire quoi que ce soit et je c'est plus trop ma tâche personnellement. Maintenant, il y a donner un sens à la vie de tout un chacun qu'on croise, c'est peut-être une mission qu'on devrait se partager au-delà des gouvernements, mais vraiment dans tout l'éducation et la culture.
Merci beaucoup, Anne.
Concernés.
Merci beaucoup, Anne.
Et merci
à vous. Je vais parler plus tard à quelques-uns de vos collègues qui sont à Paris. J'ai parlé à Paul Fournel, malheureusement, qui ne sera pas des nôtres. Mais par contre, nous allons recevoir peut-être Frédéric Forté et ou encore Michel Audin. Alors, ces gens étaient à Toronto dans le cadre de cette opération grandiose, extraordinaire, il faut bien le dire, grâce à vous. Les 24 heures du roman qui a eu un succès, dont le livre sortira très prochainement. Et grâce à vous, nous allons entrer en contact avec vos collègues, vos amis qui sont avec nous peut-être sur Internet, et certains étaient pas très loin des attentats vendredi soir. Alors les témoignages, nous avons aussi Serge Beyer qui est le fondateur du magazine Longueur d'onde, qui a peut-être perdu un ou deux personnes de son entourage, mais son photographe est sorti 5 minutes avant l'attentat au Bataclan. Alors lui aussi il est encore bouleversé, très ému, et il va nous parler avant la fin de cette émission. Mes condoléances, chère Anne. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans des moments un peu plus légers, plus détendus qu'aujourd'hui.
Merci, Eric.
Au revoir.
Au revoir.
Discarded by the National Network, wrapped in plastic and referred to as product by commercial radio, removed from the curriculum by provincial educational authorities, classical music has been driven underground. A rich musical, cultural, and intellectual tradition has been consigned to the rubbish bin, but not at CIUT-FM. This is Philip Conlon. Listen to Classical Underground on Wednesdays at 6 to 8 p.m. as we bring classical music to radio. Mixed with poetry, literature, history, commentary, and plain kibitzing, we celebrate a great musical tradition and do our part to revive this neglected art form.
CIUT 89.5, the new sound of your city.
CIUT 89.5 FM is your nonprofit alternative on the FM dial. Show your support. Keep us on the air. Donate today at www.ciut.fm or call 416-946-7800 or toll free at 1-888-204-8976.
Mark your calendars to join us at the Transac on December 4th for a party to celebrate the completion of another great year and another successful membership drive. $10 at the door, but all members will receive free entry. Special performances to be announced. Stay tuned for more details. CIUT 89.5 FM Holiday Party. December 4th at the Transac Club. Don't miss it.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city, Toronto.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Des amis au Portugal,
hola,
j'ai des amis au Sénégal,
du côté de l'eau.
moins.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, bravo.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici
tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui, Potpourri Show, on est solidaires en ce dimanche 15 novembre, édition spéciale après les attentats à Paris le 13 novembre dernier. Aujourd'hui, c'est aussi notre campagne d'adhésion, la voix de votre ville. Mesdames, messieurs, chers amis, auditeurs, collaborateurs, collaboratrices, où que vous soyez, prenez le téléphone, passez-nous un petit coup de fil, contribuez ce que vous pouvez. $25 minimum et vous pouvez téléphoner, il y a quelqu'un qui est là pour répondre à vos appels en français. 416-946-7800, 416-946-7800. J'espère que d'ici avant la fin de l'émission, j'aurai quand même une quinzaine d'appels, au moins une quinzaine d'appels avec quelques dons. Ce sera très très apprécié. C'est notre façon de montrer à la direction, le conseil d'administration de la radio de l'Université de Toronto que les francophones veulent avoir leur voix, veulent garder leur voix à l'antenne. CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, 28 ans déjà à votre service. Si vous êtes à l'extérieur de notre zone de diffusion, c'est le 1-888-204-8976. 1-888-204-8976. La France est en deuil. Cette émission donne la voix aux sans-voix dans le respect et en mémoire des victimes de l'attentat à Paris. Nous aurons des témoignages, analyses, réactions avec plusieurs invités, collaborateurs qui nous attendent dans cette deuxième heure.
Paris sous le choc, les drapeaux sont en berne, 3 jours de deuil national décrété par François Hollande, le président de la République, des bougies allumées en signe de recueillement. Ce sont des images fortes dans la capitale aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette édition spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Avec vous, Sébastien Thomas, on va tenter d'essayer d'y voir plus clair sur ces attentats qui ont frappé Paris et Saint-Denis hier soir.
Bonsoir à tous. Des attentats sanglants et ce bilan qui évolue encore, je vous le rappelle, 128 morts, 300 blessés, dont plusieurs dizaines sont encore à l'heure où nous parlons entre la vie et la mort. Nous reviendrons sur l'enquête dans cette émission. Elle progresse en France, mais vous le verrez également à l'étranger, puisqu'on apprend qu'une opération de police est en cours dans un quartier de Bruxelles. Nous décrypterons cela avec nos invités, des experts en matière de sécurité, puis des politiques dans un deuxième temps. Comment apporter une réponse à ce qui reste l'attentat le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale en France?
Ce théâtre sanglant fut, on l'a dit, le Stade de France à Saint-Denis et l'Est parisien, les 10e et 11e arrondissements, sont sous le choc depuis hier soir. Voyez ce reportage de Maud de Bohan avec Didier Morel.
Dans le 10e arrondissement, la scène témoigne d'une violence inouïe. Ici, le restaurant Le Petit Cambodge. En face, le bar Le Carillon, tous deux pris pour cible. De la sueur a été répandue au sol pour camoufler le sang des victimes. Ces cercles de craie blanche indiquent les endroits où des douilles ont été retrouvées. Au mur, des impacts de balles. Vers 21h, ce jeune homme rentre à peine chez lui lorsqu'il entend des coups de feu.
Je descends, je vois, il y avait déjà quelques policiers, etc. Je vois des gens qui portent des corps, etc. Ça fait bizarre de se dire on est dans un quartier qui est calme, qui est cosmopolite à 100%. Tout le monde se côtoie, tout le monde se parle. C'est un quartier magnifique, c'est le plus beau de Paris pour moi. Qu'il se passe ça ici, c'est aberrant.
Et puis cette scène surréaliste, ce matin au même endroit, quand cet homme, un Parisien de confession musulmane, venu se recueillir, est pris à partie.
Et pourquoi tous ces fous se réclament d'une seule religion, c'est l'islam? Il n'y a pas un juif, il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas... Pourquoi c'est uniquement toujours l'islam?
Qu'est-ce que j'en sais, monsieur? Aujourd'hui, ce n'est pas dans les mosquées qu'on enseigne ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ces gens sont fous. Ces gens cherchent sur Internet. Ils cherchent tous les motifs possibles et inimaginables. Aujourd'hui, ces gens-là... Ce ne sont pas des êtres humains.
Rue de la Fontaine au Roi, une rue habituellement animée, non loin de la place de la République. Ici ce matin, tout est étrangement silencieux. Les abords immédiats de la pizzeria Casa Nostra sont bouclés. À l'intérieur du périmètre de sécurité, la police scientifique effectue des prélèvements. De rares personnes assistent à la scène.
Vous écoutez une émission spéciale dans le cadre des attentats à Paris le 13 novembre dernier. Popourri Show devient aujourd'hui On est solidaire en ce dimanche 15 novembre. Et oui, de nombreuses célébrités du sport et du spectacle se sont exprimées sur les réseaux sociaux, partageant le mot dièse, hashtag Pray for Paris, courage la France, nous sommes avec vous, a tweeté en français J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter que vous connaissez sans doute, mes pensées, mes prières pour tous, a écrit le chanteur Justin Bieber. En sortant de scène, nous sommes tous unis, il y a aussi Madonna je pense, qui a fait garder, observer une minute de silence en commémoration aux victimes de cet attentat à Paris. Elle était en Suède, je pense, enfin quelque part en Europe hier soir. Madame, monsieur, cela me fait plaisir d'accueillir Madame Michèle Audin, qui était lors de ces opérations montées par Anna Forrest Wilson, l'écriture en mouvement. Et donc c'était ce train partant d'Halifax arrivé à Toronto et ça a eu un succès incroyable. Le livre sortira bientôt. Donc cela nous fait plaisir d'accueillir une des personnalités qui était à ce rendez-vous. C'est Michèle Audin qui est avec nous en direct de Paris. Bonjour madame. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, alors vous m'entendez, ça va?
Oui, très bien.
Très bien, alors merci beaucoup tout d'abord. Je sais qu'à Paris, avec le décalage horaire, il est déjà début de la soirée, hein, n'est-ce pas?
Bon, il n'est que 6 heures, hein, c'est pas...
Très bien, alors où étiez-vous vendredi 13?
J'habite à Paris dans le 11e arrondissement, près de la rue de Charonne. Voilà, on a appris ce qui se passait à Paris ce soir-là juste par un coup de fil de notre fille qui essayait de rentrer à la maison et qui savait pas, qui comprenait pas ce qui se passait. Voilà, donc on peut parler d'aujourd'hui plutôt si vous voulez.
Oui. Et donc le soir, ça a été une nuit effroyable parce que moi je sais, j'ai entendu des gens disant qu'ils n'ont pas pu dormir ce jour-là parce que.
Non, mais c'est une situation un peu terrifiante, disons.
Et 11e arrondissement, Charonne, c'est pas très loin où se passaient ces attentats. Vous étiez presque à côté.
Oui, il y a un débar qui a été où 19 personnes ont été tuées, qui est juste à côté de chez nous, oui. Qui est très près de chez nous. Oui.
Et vous, personnellement, vous n'avez pas perdu, j'espère, aucun ami ou de connaissance ou autre personne, hein?
Non, enfin, pas que je sache.
Oui.
Non.
Alors, aujourd'hui, c'est deuil national. Il y a, je sais, à Versailles, le président Hollande va rencontrer tous les chefs de parti de tous les niveaux, tous les bords. Hein. Ça, c'est du jamais vu. Et est-ce que les Français sont encore sous l'état de choc, d'après vous, d'après ce que vous entendez à la radio, vous voyez à la télévision, les journaux? Quelle est l'ambiance en ce moment même à Paris, après cet attentat?
Ben, je vais vous dire quelque chose. J'ai marché à Paris cet après-midi pas mal. Il faisait extrêmement beau et dans les quartiers nord-est de Paris, qui sont les quartiers qui ont subi ces attentats, il y avait énormément de gens dans les rues Et en particulier, il y avait énormément de monde aux terrasses des cafés. J'ai rarement vu ça. Bon, il faisait très beau, mais on est quand même en novembre. J'ai rarement vu autant de monde aux terrasses des cafés à Paris un dimanche après-midi. Mmh. Donc, je pense que les gens veulent montrer que, bon, ils sont là, quoi.
Oui. C'est pour montrer, nous sommes courageux, nous n'avons pas peur.
Oui, et puis bon, comment dire, en fait, une des choses les plus choquantes de cette histoire, c'est que ça se passe, c'est un peu comme, enfin, toute proportion gardée, c'est un peu comme un cambriolage, les gens rentrent chez vous, oui. Chez vous. Peut-être que ce que les gens veulent dire, c'est que c'est ici, c'est chez nous, on est chez nous, on reste chez nous. On est aux terrasses des cafés, on se promène dans la rue,
oui.
Voilà, c'est la vie à Paris.
Ça fait, vous êtes à Paris depuis très longtemps. Vous êtes né à Paris même ?
Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Je suis né en Algérie, mais j'habite ce quartier depuis 35 ans. Mm. Donc, c'est vraiment chez moi.
Oui, bien sûr. Est-ce que des amis, vos collègues, d'autres écrivains, est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupait avant les attentats de Paris, avant Charlie Hebdo? Est-ce que, parce que je sais des fois les artistes, les écrivains prévoient, voient des choses à travers leurs écrits, leurs œuvres, ils peuvent nous faire passer des messages, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait cette appréhension chez vous ou chez vos proches, chez vos amis, qu'un jour une chose pareille pourrait se passer en France?
Non, je vais pas vous dire que j'ai prévu ça. Je suis assez inquiète depuis un certain nombre d'années parce que les perspectives politiques qui s'ouvrent devant les gens sont pas extraordinaires. Je suis assez inquiète de la montée de l'extrême droite en France. Mais disons cette forme-là de terrorisme, c'est pas forcément la chose à laquelle j'avais le plus pensé jusque-là. Oui. Du moins dans mon travail comme écrivaine. Ou...
Est-ce que vous pensez que ça va changer maintenant le mode de vie de certains de vos compatriotes? Parce que on voit certains médias depuis hier lancent cette question. Qu'est-ce que ça va changer chez vous? Est-ce que nous devons garder nos habitudes ou maintenant nous devons absolument changer de mode de vie?
C'est pas tellement la question du mode de vie, c'est plutôt la question de savoir comment on peut lutter contre le développement de ce type de terrorisme. Je pense pas que ce soit vraiment la question du mode de vie. Je sais pas du tout comment on peut lutter contre le développement de ce type de terrorisme, et je vois pas très bien comment on peut empêcher que ça se développe. Ça je sais pas.
Mmh. Surtout quand il y a des Français qui ont été trouvés sur les lieux, qui vivent chez vous. D'autres sont passés par la Belgique, par contre. Mais c'est très difficile à repérer des terroristes qui sont vos voisins, quoi.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis qui n'ont pas peur de mourir en
martyr
en faisant ce type d'acte. Donc qu'est-ce qu'on peut contre ces gens-là, je sais pas.
Alors les jeunes, d'après vous, quelle est la mentalité d'aujourd'hui? Quel est le regard les jeunes, pensez-vous, ont sur la France, sur la politique, sur l'immigration? Ce sont des sujets, je pense, qui touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent à Toronto, en grand nombre d'ailleurs, par différents programmes, qui viennent s'installer au Canada. Est-ce qu'il y a de l'avenir pour ces jeunes qui sortent du lycée, de l'université, qui veulent trouver du travail? Est-ce qu'ils sont...
Je sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça, mais non, je sais pas, je peux pas vous dire. Mais bon, j'aimerais bien qu'on mette pas l'immigration dans le paquet des problèmes et du terrorisme. C'est quand même.
Oui. Et ça, c'est le débat. Hein. On a vu récemment, parce qu'on trouve qu'il y a quelqu'un qui a passé par la filière des migrants de la Grèce en France. Alors, il faut bien voir. Mais vous savez que le Canada va accueillir plus de 25 000 réfugiés de Syrie. Ça faisait partie de nos débats des élections électorales dernièrement. D'autres pays en Europe sont plus ouverts, d'autres sont moins ouverts. Mais je sais que la question de l'immigration est une pomme chaude, comme on dit, une patate chaude pour les politiciens ces temps-ci.
Il y a pas bon, de... Le Canada, c'est quand même un pays qui a des grandes traditions d'immigration, beaucoup plus que la France, je dirais. Mais je veux bien pour qu'on n'amalgame pas le terrorisme et l'immigration, quand même.
Oui. Alors,
Vu la situation en France, ça serait mieux de pas trop mélanger les choses.
Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de l'extrême droite, votre peur, et nous avons aussi parlé à plusieurs interlocuteurs, et dans les médias, on voit qu'il y a une crainte vraiment chez beaucoup que ce qui vient de se passer va aider, faciliter certains ténors du parti du Front National. Et ça, il y a une vraie crainte hein, chez beaucoup de Français qui, malgré tout ce qui est en train de se passer, rejette le Front National.
Pourquoi malgré ? Non, bien sûr, oui. Mais c'est une très très grande crainte. Et ça, bon, ce terrorisme, ça leur fait le lit. Ouais. Non, bien sûr, c'est extrêmement dangereux.
Alors, nous sommes de tout cœur avec vous et le peuple français. Et nos condoléances et nos pensées, nos prières, bien sûr, vont à toutes ces familles, ces victimes.
Merci.
Ces gens qui sont partis dans un éclat de seconde, tout en allant au spectacle, rencontrant leurs amis, prenant un verre, manger ensemble, sortir et vivre, parce qu'il faisait beau ce jour-là, n'est-ce pas? Et voilà, dans l'espace de quelques secondes, toute une vie a chambardé et beaucoup de personnes vivront jusqu'à la fin de leur jour sans revoir ceux et celles qu'ils ont perdus. Alors, nous sommes de tout cœur avec la France, les Français, mais aussi ça peut nous arriver, nous aussi au Canada. On a failli passer quand il y a eu un attentat au Parlement au mois d'octobre, je pense, ou l'été, au début de l'été. Alors, je pense qu'il faut être vigilant, non ? N'est-ce pas ?
Oui.
Il faut être très vigilant.
Mmh. Alors, beaucoup, hein.
Oui. Alors, donc, vous avez aimé quand même votre séjour au Canada ? Ça s'est bien passé ?
Ah oui, bien sûr. Oui, on devrait parler de ça. C'est plus, c'est plus facile. Oui, c'était une expérience extrêmement... Bon, en fait, le Canada, j'y vais souvent. Hein. C'était pas ma première fois, bien sûr, mais c'était une expérience vraiment très enrichissante avec tous ces écrivains et tout ça. Vraiment, c'était vraiment quelque chose de superbe,
ouais.
Vraiment.
Et c'est une aventure extraordinaire et unique. Être dans un train de Halifax jusqu'à Toronto, plus de 24 heures ensemble, les 24 heures du roman, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose. Hein.
Et de 24 écrivains ensemble qui écrivent un livre ensemble, c'est dans un temps si court. Ouais. Non, mais sérieusement, c'était une expérience vraiment inoubliable. Ouais. J'ai beaucoup appris en parlant avec tous ces écrivains canadiens qui étaient tellement différents, tous ceux qui venaient du Grand Nord et puis
les autochtones, les Québécois, les franco-ontariens.
Voilà. c'était vraiment très enrichissant. Ouais, ouais. Hein. Vraiment, j'ai appris beaucoup.
Oui. Alors, cela nous fait plaisir. Et puis, on se reparle, j'espère, dans des moments plus réconfortants, plus joyeux, je l'espère. Et puis, on vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
planète suis-je tombé ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Keep your radio station broadcasting by donating to the Fall Membership Drive. Go to www.ciut.fm or call 416-946-7800 or toll free at 1-888-204-8976. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Mesdames, Messieurs, vous écoutez une émission spéciale aujourd'hui, Potpourri et solidaire, en ce dimanche 15 novembre, édition spéciale après les attentats à Paris le 13 novembre, vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est aussi notre campagne d'adhésion, La Voix de votre ville. Aidez-nous à garder l'antenne, appelez-nous tout au long de l'émission et nous comptons sur votre contribution. 416 946 7800. Je vois ici que nous sommes rendus déjà à plus de 15, 18, 20 personnes peut-être. Alors c'est déjà très beau. Je vous remercie de tout cœur. Je passerai le nom, le message aujourd'hui et la semaine prochaine. Et une fois de plus, un grand merci. Le numéro à composer, 416 946 7800. La France est en deuil. Cette émission donne la voix aux sans-voix dans le respect et en mémoire des victimes de l'attentat à Paris. Témoignages, analyses, réactions avec nos invités jusqu'à 13h. Et oui, au moins 89 personnes sont mortes dans la salle du concert du Bataclan située dans le 11e arrondissement de Paris où avait lieu un concert des Eagles of Death Metal. Trois individus équipés d'armes de guerre sont arrivés à bord d'une Polo noire. Et ils ont entré dans la salle et ont ouvert le feu. Ils ont tiré en rafale en plein concert. Avant de prendre en otage les occupants devant la fosse et l'orchestre. Trois terroristes se sont alors donné la mort en actionnant leur gilet quand ils ont vu la brigade de recherche et d'intervention et le RAID qui ont donné l'assaut. Donc, ils n'avaient pas le choix. Et les trois terroristes se sont alors donné la mort en actionnant leur gilet explosif. Bilan, 89 morts et peut-être même plus, et de nombreux blessés. Nous avons le plaisir d'accueillir un de nos amis collaborateurs qui nous fait rêver à travers les différents festivals francophones, que ce soit au Québec, en France ou en Belgique ou ailleurs. Je sais qu'il est encore dans la douleur, mais je voulais tellement avoir ses commentaires, perspectives, réactions sur ce qui s'est passé à Paris. Le directeur fondateur de la revue, le magazine Longueur d'onde, qui est avec nous, Serge Beyer, bonjour.
Oui, bonjour.
Et mes condoléances, cher ami.
Oui, ben, c'est toute la France qui est dans ce deuil, là. Et puis, je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus que ce que vous savez déjà, si ce n'est qu'on est tous atterrés. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de morts au Bataclan, mais il y en a eu aussi... aux terrasses de café, à l'entrée du stade de France. Et puis, ça, c'est vraiment des tirs à l'aveugle qui font froid dans le dos et on se demande ce qui peut se passer ou ce qui va se passer dans les jours et les mois qui viennent. On est tous dans l'expectative. Là, je suis arrivé à Paris, c'est assez désert. Il y a une sorte de couvre-feu organisé par le gouvernement qui a décrété 3 jours de deuil et qui a interdit les manifestations, ce qui est un peu logique parce que on sait pas ce qui peut se passer si on se réunissait. C'est quand même toujours assez dangereux. Je pense aussi que la police fait son travail et est en train de chercher, de trouver, puisque je sais qu'ils ont déjà trouvé des pistes et arrêté des gens un petit peu partout, y compris en Belgique. Donc on en est là, on compte les gens qui manquent. Moi, j'ai évidemment perdu des amis ou des gens, en tout cas du métier, qui étaient dans cette salle. Et puis j'ai une de mes photographes qui était présente et qui a fait des photos au début du concert et qui a quitté la salle exactement 2 minutes avant l'arrivée des terroristes. Donc rétrospectivement, elle est dans un drôle d'état. Évidemment, on peut la comprendre. Puis je connais aussi des gens qui ont échappé à ça, qui ont réussi à s'en sortir. Mais on imagine forcément le traumatisme de ces gens et de leur entourage. On va à un concert, c'est festif, on est bien, et puis tout d'un coup, des gens rentrent, je crois qu'ils étaient 3, et qui tirent sur tout ce qui bouge, et puis qui abattent encore plus ceux qui sont au sol. Et puis, enfin bon, ça n'a pas de nom, quoi. C'est une barbarie à l'état pur.
Vous savez, plusieurs médias, j'écoute un peu les analyses à ITV, CNN, parce que ici on est au Canada, on a aussi d'autres perspectives, en Afrique, dans les pays du Maghreb. Oui. C'est très intéressant de voir comment les gens se situent face à ce qui vient de se passer, mais beaucoup, beaucoup parlent de justement, on a voulu attaquer des symboles, la liberté, les droits de vivre en France, parce que le Bataclan, c'est quand même une salle de spectacle, c'est reconnu.
Oui.
Je veux dire, les gens qui sont sur des terrasses en train de prendre un café ou un verre, ça aussi, c'est une forme de liberté, on lie des amitiés, c'est une mode de vie, quoi. Hein? Et puis le sport, alors je ne sais pas si sont contre les sportifs ou le sport, mais quand même, là, il y avait 80 000 personnes. Pour moi, c'était... Alors, quand vous avez dit tirer à l'aveuglette, pour moi, c'était très bien préparé, bien organisé.
Oui. Non, ça, je suis totalement d'accord. Les cibles étaient voulues, mais... Je parle des gens qui sont en train de boire un café, qui sont en train d'assister à un concert et qui n'en sortiront pas finalement. Donc je pense que peut-être que la salle de concert était préméditée aussi parce qu'il y avait un groupe américain et puis qui défendait des idées plutôt du rock libertin, donc ça devait encore plus déplaire à ces gens-là. Le sport, bon ben, je pense aussi que c'est tout simplement une histoire de d'étalage de gens qui ont de l'argent et d'autres qui n'en ont pas et qui n'ont rien à perdre et qui sont dans une doctrine complètement folle où ils sont persuadés que détruire ceux qui ont un minimum de choses les mènera au paradis, à leur paradis en tout cas. Il y a aussi ça, je pense que c'est surtout une confrontation entre l'Occident et puis des pays qui sont dans dans une misère assez globale et puis qui en fait quelque part envie ce que l'on a et veulent le détruire.
Je reçois
il y a un petit peu tout qui se mêle quoi.
Je reçois un internaute qui nous dit il ne s'agit pas d'une guerre civile, c'est que certains voudraient instrumenter, certains de ses amis sont français, d'autres sont belges, syriens et égyptiens aux dernières nouvelles, mais ils ont un point commun, ce sont des islamistes, nous sommes en guerre contre une idéologie, comme la guerre froide a opposé l'Occident au communisme et la seconde guerre mondiale au nazisme et au fascisme, qu'il y ait des partisans de l'idéologie ennemie et des collabos parmi les Français est normal, mais ce n'est pas une guerre civile entre Français, ou alors si c'est une guerre civile, c'est la charia contre la République, et dans ce cas, elle va faire beaucoup plus de morts. C'est dur, ça. Ça les réactions
de l'auditeur. On ne sait pas du tout où tout ça va nous mener. Hein. Ça, c'est sûr que c'est vraiment le point d'interrogation. Soit, enfin, on est tous dans un drôle d'état, quoi.
Oui. Alors, moi, je n'ai pas suivi la réunion à Versailles entre les différents partis, leaders des partis politiques français. Est-ce qu'il y a des retours de ça,
pas.
Non, ok.
J'ai pas du tout écouté. J'avoue que j'ai tellement mangé de télévision et d'informations depuis que c'est arrivé qu'aujourd'hui j'ai décidé de marcher dans Paris, de couper avec tout. Donc je suis absolument pas au courant de ce qui s'est passé dans la journée. Et je vais m'y replonger tout à l'heure, mais là j'avais besoin d'évacuer un petit peu tout ça de façon un petit peu égoïste, mais j'ai besoin de prendre l'air pour le coup. Ouais.
Et comment est l'ambiance, justement, les gens autour de vous à Paris? Vous êtes dans quelle région de Paris?
Moi, je suis dans le 18e. Là, j'ai été à côté du Sacré-Cœur et un petit peu dans le quartier des Abbesses. Et là, il y avait beaucoup de monde qui, malgré tout, était aux terrasses et vivait leur vie comme si rien n'était. Par contre, hier, quand je suis arrivé... Moi, je vis à Bordeaux, et quand je suis arrivé, là, j'ai trouvé vraiment Paris complètement déserté, très étonnant. J'ai pris le métro, on était trois dans le wagon, j'ai traversé tout Paris, et j'ai dû voir 10 personnes en station de métro, quoi. Donc, c'est la première fois que j'ai vu ça. C'était vraiment vide et mort, quoi.
Et quand on sait que ça grouille de monde à Paris, c'est tout le samedi.
Surtout un samedi soir, en effet.
Oui. Alors, écoutez, mon cher ami, bon courage. On est avec vous de tout cœur. On a eu plusieurs invités, y compris une Parisienne qui est passée juste avant vous. Et il y a des Français qui vivent ici, qui ont de la famille à Paris. Mais vous savez, il y a un peu de Paris. Il y a un peu de Paris chez nous. Hein. Comme bien disait le maire de Toronto hier, et devant plusieurs centaines de personnes, il dit « Il y a un peu de Paris chez moi, il y a un peu de Paris chez nous. » Alors,
et je pense qu'il y a... parisiens aujourd'hui.
Oui, alors merci. Ouais. Et puis, j'espère que vous allez retrouver ceux et celles qui répondent pas à l'appel.
Oui, bien sûr.
Et puis...
Je voudrais juste terminer avec une note d'espoir malgré tout. Je sais que le peuple français ne baisse pas les bras et est conscient des choses, puisque déjà hier soir, les hôpitaux avaient fait appel aux dons de sang et il y avait des files d'attente de gens qui venaient donner leur sang spontanément à n'en plus finir, à tel point qu'ils n'arrivaient même plus à faire les prises de sang. Donc je veux dire, il y a tout le monde est conscient et tout le monde est prêt à agir et à pas baisser les bras.
Une grande solidarité, les médecins, les infirmiers sont venus comme
et
ça,
et
le peuple, voilà. Et alors, le combat continue, il ne faut pas céder, comme dit le président français, il faut tout faire.
Les forces de la lumière qui doivent être là.
Voilà, justement. Allez, on se parle très prochainement, et j'espère dans des meilleures conditions, hein.
Oui.
Et puis, prends bien soin de toi et surtout, fais très attention à Paris, mais en même temps, vis la vie. La vie continue.
C'est ça. C'est
allez, au revoir. Merci.
Au revoir. Au revoir.
Imagine de John Lennon, madame, monsieur, regretté John Lennon. Pourquoi je passe cette chanson? C'est notre chanson thème tout au long de cette émission spéciale, parce qu'il y a un pianiste qui est allé se présenter devant le Bataclan avec son piano électrique et qui a commencé à chanter, à jouer ce thème, Imagine. Eh oui, édition spéciale, CUT 89,5 FM. On est solidaire avec Paris. Émission spéciale après les attentats du 13 novembre. Et oui, et aujourd'hui, nous sommes dans le cœur de notre campagne d'adhésion et je suis très heureux de voir que vous répondez présent. Vous avez contribué. Je remercie tous ceux et celles qui ont appelé depuis 11 heures. Diane Chapon-Laure, entre autres, Roland Smith, mon Dieu, Jean-Roch Boutin, Sharon Weiss et tant d'autres encore, Nancy, alors nous sommes 22 personnes qui ont appelé depuis 11 heures, merci beaucoup. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans donner la parole à une grande amie, mais aussi une personne qui, à sa façon, transforme le monde à travers l'audiovisuel, à travers le cinéma. Et bien sûr, j'ai nommé Marceline, qui est la fondatrice de Ciné Franco, qui est avec nous, mais dans un endroit quand même assez spécial, parce qu'elle est en compagnie, madame, monsieur, tenez-vous bien, avec l'ambassadeur du Maroc, si je ne m'abuse. Marcel, bonjour.
Bonjour, Eric.
Alors, merci d'être là dans ces moments tristes et difficiles. Nous avons parlé avec le consul, mais aussi avec des gens d'ici et de Paris en direct pour nous décrire la situation et l'ambiance après cet attentat de vendredi dernier. Et je voulais absolument vous appeler, parler et avoir votre idée, mais aussi des mots d'encouragement sur l'avenir, hein, parce que
oui,
c'est ça.
Oui. Écoutez, je suis compagnie de son Excellence, l'ambassadeur du Maroc, qui a fait un discours éloquent, justement, sur la situation à Paris. Et c'est extrêmement encourageant d'un pays francophone à majorité musulmane d'avoir cet écho et ce sentiment de soutien. Et j'aimerais beaucoup lui passer la parole parce que voilà l'espoir, voilà les paroles de l'avenir et voilà aussi les paroles d'une amitié profonde et sincère. Alors, si vous me le permettez, je vais passer la parole à son Excellence, Madame Nouza Chikouni. Merci. Allô?
Bonjour, Madame. Alors, on vous appelle Madame
Nouza.
Madame l'ambassadrice ou Madame l'ambassadeur?
Non, l'ambassadeur.
L'ambassadeur. Eh ben, écoutez, bonjour à votre Excellence. Et puis,
bonjour.
C'est une surprise, mais en même temps une bonne surprise parce qu'aujourd'hui, on fait une émission spéciale dans le cadre de ces attentats à Paris pour rendre hommage à toutes ces victimes. Et vous avez quelques minutes parce que nous sommes à la fin de l'émission, mais vous avez quelques minutes pour passer votre message.
Voilà, donc je me trouve à Toronto à l'occasion de la levée du drapeau marocain. On fait 60 ans d'indépendance et 40 ans de la marche verte. Et c'était pour moi l'occasion d'exprimer en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'ambassade mes sentiments les plus attristés après ces attaques odieuses qui ont ciblé les plusieurs quartiers à Paris et qui ont fait des victimes innocentes, des blessés, des personnes qui vivaient tout à fait leur vie, qui ont été la cible de ces attaques. Donc, je voudrais en cette triste occasion adresser mes condoléances les plus sincères, ma compassion et ma solidarité avec le peuple français, notamment les familles des victimes, avec le gouvernement français. Mais vous savez, mon message, c'est que tous ensemble, nous allons continuer à nous battre pour les valeurs du vivre ensemble, pour les valeurs de respect de l'autre, pour les valeurs de convivialité, parce que ce sont là des valeurs partagées. Nous ne baisserons pas les bras, parce que ce n'est pas notre bataille, c'est celle-ci. Et nous allons continuer à la mener ensemble. Et la France n'en sortira que plus forte et plus unie grâce à toute la mobilisation, non seulement au sein de la France, mais la mobilisation de tous ses amis dans le Maroc. Je rappelle que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé un fort message dans lequel il exprimait la solidarité du Maroc, mais aussi il condamnait fermement ces actes terroristes.
Je rappelle aux gens qu'au Maroc aussi, il y a eu quelques incidents, pas aussi graves, mais vous avez quand même suivi de près, vous continuez à suivre de près les extrémistes, les djihadistes qui viennent sur votre territoire, n'est-ce pas? Vous avez tout
absolument, absolument. Mais écoutez, personne n'est à l'abri aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une religion ou d'une race ou d'un genre. Il s'agit d'une humanité qui croit dans les valeurs de l'humanisme. Et c'est pour ça que je parlais de valeurs partagées. Et puis de cette minorité au nom, écoutez, du terrorisme, ça n'a pas d'autre nom. Et qu'il faudrait condamner, mais comme je le disais, il faudrait des actions concrètes, mais ensemble, tous unis. Je suis sûr qu'on finira par vaincre le mal.
Alors, pour terminer, parce que je sais on est à la fin de l'émission, il faut dire aux gens que quand on est en Europe, il y a beaucoup plus de facilité de traverser les frontières entre la Grèce, le Maroc, la Tunisie, la Libye, arriver jusqu'à en Allemagne, alors l'Italie, par exemple. Alors, c'est très compliqué. Hein. Il faut que ces pays travaillent ensemble pour avoir des politiques, justement, pour pouvoir canaliser les bons migrants et les mauvais migrants.
C'est certain qu'il y a beaucoup de défis aujourd'hui, de nouveaux défis, pour faire face à cette réalité. Donc c'est clair que les questions sécuritaires sont là, mais il y a aussi d'autres voies pour chercher le développement durable. Et le développement durable ne peut se faire que dans le cadre d'une coopération, mais alors soutenue, une coopération ambitieuse qui puisse mettre l'être humain au cœur de ces politiques. Et je pense que là, aujourd'hui, on devrait être conscient que rien ne nous sépare. Ce qui nous sépare, c'est la pauvreté, c'est la précarité. Et ce sont là les mots qui font le lit, justement, de l'extrémisme que nous devrions tous combattre.
Oui. Écoutez, Madame l'ambassadeur, c'est tout un honneur de vous recevoir aujourd'hui à l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en personne un jour.
Et merci puis,
oui, l'antenne est toujours là. Si vous voulez faire des échanges entre le Maroc et la radio Toronto, nous sommes à votre disposition.
Ben, mille merci. Oui. Écoutez, comme je vous le disais, je suis là pour la levée du drapeau marocain. On célèbre 40 ans l'anniversaire de la marche verte pour la récupération du Sahara du Maroc. Et aujourd'hui, à 15h, nous diffusons un documentaire sur la question. Donc, voilà, la bienvenue souhaitée et tout ce qui pourrait faire le déplacement pour être à l'Alliance française à 15h serait les bienvenus.
Très bien, je vous remercie et bonne fête encore et vive le Maroc.
Merci beaucoup, vive la France et vive notre amitié.
Oui, je vais reparler rapidement à Marcel. Merci. Alors voilà,
allô,
madame, monsieur. Oui, alors Marcel, quel beau message. On avait besoin de ça, je pense, pour clôturer l'émission.
Oui.
Et nous sommes vraiment choyés. Nous sommes vraiment très heureux. Je vais vous laisser aller parce que je sais que vous êtes entouré de personnalités. Vous avez d'autres activités tout au long de la journée. Mais on aura l'occasion de revenir sur ces attentats qui ont quand même marqué le peuple français, mais le monde entier. Et je vois qu'il y a une solidarité incroyable qui se manifeste envers Paris, envers la France. Et j'espère que les gens vont prendre conscience que rien n'est gagné. Il faut être prudent et aussi rebâtir notre société à chaque jour.
Absolument, et combattre ce culte apocalyptique, en fait, qui est une personnification du mal.
Oui. Cher Marcel, bien le bonjour à Ralph et aussi
merci
à toute l'équipe. Et encore une fois, un grand merci à l'ambassadeur pour avoir partagé son opinion, ses idées et aussi ses commentaires. C'est très bien apprécié.
Je lui transmettrai vos remerciements. Merci.
Et à très bientôt.
Au revoir.
Thank you. puis t'as repris le mot. Trois fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois, je répète. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois, je répète. Le silence va plus vite à reculons. Trois fois, je répète. Le silence va plus vite à reculons.
Une émission spéciale aujourd'hui, voilà monsieur, pour Pourri Chaud, on est solidaires. En ce dimanche 15 novembre, édition spéciale après les attentats à Paris le 13 novembre dernier. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, mais vous avez encore quelques minutes pour nous appeler et contribuer à la seule et l'unique émission en langue française, à la radio CUTFM, la radio communautaire de Toronto, la radio liée à l'Université de Toronto. 416-946-7800. Je répète, 416-946-7800. Je reçois un message en disant que l'Afrique solidaire de la France est déterminée à combattre le terrorisme, continent touché de plein fouet par le terrorisme de groupes affiliés à l'organisation État islamique comme Boko Haram ou Al-Qaïda. L'Afrique a exprimé sa solidarité avec les Français par la voix de ses chefs d'État et tente d'orchestrer une lutte coordonnée contre le terrorisme. Et puis, nous avons reçu d'autres messages sur Twitter, mais aussi sur Facebook, pour nous aider à vraiment comprendre ce qui se passe à Paris, mais aussi ces groupes djihadistes et Daesh. J'aimerais terminer rapidement avec le mot de la fin. Ces derniers jours, comme vous le savez, le groupe djihadiste État islamique a subi de cuissants revers. Pas plus tard que vendredi matin, l'armée américaine a mené un raid aérien en Syrie qui s'est conclu par l'élimination de Jihadi John, citoyen britannique connu pour avoir décapité de nombreux prisonniers. Ces dernières heures, une coalition arabo-kurde syrienne a chassé Daesh d'une position clé qu'il contrôlait à la frontière avec l'Irak. Ces avancées ont pu faire croire à un affaiblissement notoire d'une organisation sanguinaire qui a commis ces dernières années des attentats sanglants en de nombreux points du globe au nom d'une idéologie islamiste radicale aux antipodes des valeurs démocratiques que nos sociétés ont défendues au prix de nombreux sacrifices. Hélas, hélas, le terrorisme conserve d'immenses ressources. Ceux qui se nourrissent de la haine de l'Occident conservent un énorme pouvoir de nuisance et de vengeance. Ils l'ont prouvé en provoquant, fin octobre, l'explosion en vol d'un avion russe au-dessus du Sinaï. 224 morts. Ils l'ont encore démontré en frappant plusieurs endroits de Paris, vendredi soir, semant la mort et la terreur au sein d'une population française encore traumatisée par l'attentat contre Charlie Hebdo et un supermarché cachère en janvier. La lutte contre l'obscurantisme religieux des fanatiques de Daesh sera de longue haleine. Elle connaîtra sans doute d'autres épisodes sanglants. Elle exige, en tout état de cause, le sang-froid des populations qui subissent leurs attaques répétées et une réponse adéquate de leurs dirigeants. Une réponse qui doit se déployer sur tous les terrains, car la violence de Daesh, aussi impardonnable soit-elle, se nourrit à mille sources et vient de très loin. Il faut en éradiquer les effets, mais en guérir aussi les causes. Vous vous souvenez de cette phrase, de ces gens? Ils ne mettaient jamais la main sur un fusil. Gandhi, Luther King ou Jésus-Christ. Peace. Paix. Et oui, madame, monsieur, c'est sur ça que se termine notre émission spéciale aujourd'hui. Je remercie beaucoup monsieur Marc Trouet, consul général de France à Toronto, Professeur Pascal Michelucci, directeur du département d'études françaises, Université de Toronto. Anne Forrest Wilson, fondatrice de l'écriture en mouvement et du projet Les 24 heures du roman. Marceline, fondatrice et directrice de Ciné Franco. L'ambassadeur du Maroc qui est à Toronto. Et Michel Aubin, écrivaine en direct à Paris. Serge Beyer, fondateur de la revue Longueur d'onde. Et aussi, nous n'avons pas pu malheureusement parler à d'autres invités qui ne pouvaient